Paris, 8h10 en temps universel. Et place à présent à votre émission Appel sur l'actualité avec ce matin Marie Cazadebé.
Bonjour. Merci, Marie. Merci Aurélien Devernois. Bonjour à tous.
Suivez Appel sur l'actualité avec Orange Monnaie pour le transfert d'argent de la France vers la Côte d'Ivoire, le Mali, le Sénégal.
Appel sur l'actualité.
33 9 693 693 70.
Marie Cazadebé.
Bienvenue si vous nous rejoignez sur RFI, ravi de vous retrouver dans Appel sur l'actualité pour une semaine d'émission ensemble avec dans une demi-heure, juste après le journal Afrique, notre débat ce matin sur les négociations en cours en RDC sous l'égide des évêques. Êtes-vous aussi confiant que les religieux qui annoncent la reprise des discussions pour jeudi? Et que pensez-vous des mesures discutées et du compromis qui pourrait découler de ces négociations réunissant opposition et majorité? Il est encore temps de nous appeler au 33 9 693 693 70 ou bien de nous écrire sur les pages Facebook et Twitter de l'émission. Mais d'abord, vos questions sur l'actualité, nos journalistes pour y répondre. Ce matin, on parle d'un scandale minier en Guinée, du processus de paix au Mali et de l'avenir des derniers tirailleurs sénégalais. Mais d'abord, de l'épisode de pollution que vient de vivre la Chine. Et c'est avec Jocelyn, un auditeur qui nous appelle de Canton en Chine justement. Bonjour Jocelyn.
Oui, bonjour Marie, bonjour à tous les auditeurs de RFI.
Jocelyn, vous avez des questions sur ce pic de pollution que vous venez de vivre en Chine.
Si. Cela fait déjà quelques jours, le nord de la Chine, tout comme Paris, ont connu un pic de pollution pendant déjà près ou plus d'une semaine. Doit-on donc s'attendre à une accélération de cet épisode de pollution dans d'autres villes, sachant que le développement économique de plusieurs pays, surtout de la Chine, est basé sur les industries lourdes qui tournent à plein temps? Et deuxièmement, quelles sont les mesures effectives doit-on réellement prendre pour endiguer définitivement à ce problème de pollution, sachant que la circulation alternée n'a pas suffi pour résoudre réellement le problème?
Alors, l'avenir et les différentes mesures pour répondre à ces pics de pollution, c'est Eike Schmid, notre correspondante à Pékin, qui va vous répondre. Bonjour Eike.
Bonjour Marie, bonjour Jocelyn, content.
Alors, Jocelyn s'interroge sur l'avenir. Est-ce qu'on peut s'attendre à une multiplication de ces pics des semaines comme la Chine vient de traverser?
Je le crains, on n'a pas vraiment besoin de lire dans la boule de cristal. Cette vague de pollution ne sera certainement pas la dernière. Hier, c'était à nouveau Pékin et aujourd'hui, c'est encore la capitale de la province du Hebei qui est plongée dans cette brume toxique. Alors, le Hebei est d'ailleurs devenu le symbole de tout ce qui ne va pas dans ce pays, avec son économie qui dépend effectivement, comme vous le dites Jocelyn, de l'industrie lourde, comme ces usines d'acier ou encore ces mines de charbon, et des autorités locales qui font de la résistance contre les ordres de Pékin. Il faut savoir que la promotion des cadres communistes dépend toujours de leur bonne performance économique et ces cadres favorisent donc l'industrie lourde aussi parce que des millions d'emplois en dépendent. Toutefois, Jocelyn, Pékin a engagé, vous le savez certainement, une transformation de son modèle économique en faveur des services et des nouvelles technologies au détriment justement des industries lourdes qui polluent mais qui sont aussi devenues trop peu rentables.
Alors du coup, est-ce que le pays, la Chine, hein, tient encore le triste record du plus grand pays pollueur de la planète?
Oui, la Chine émet deux fois plus de CO2 que l'Europe aujourd'hui et au moins 60% de l'électricité provient toujours du charbon. Alors l'usine du monde continue même de dépenser des centaines de milliards d'euros dans de nouvelles centrales à charbon dont elle n'a plus vraiment besoin. Mais deux facteurs pourraient quand même changer la donne. Premièrement, le ralentissement économique, il va de pair avec une moindre consommation de l'énergie et donc du charbon. Et puis, il y a aussi le ras-le-bol de la population qui inquiète le régime. 50% des Chinois disent que Pékin doit réduire la pollution et cela même au prix d'une moindre croissance. Alors, ce mécontentement sera peut-être le meilleur moteur justement pour inverser la courbe. Il faut savoir qu'aujourd'hui, un tiers de tous les décès en Chine sont liés à la pollution.
Alors, Jocelyn, notre auditeur à Canton, s'interrogeait aussi sur les mesures qui ont été mises en place pendant ce pic de pollution, et puis les mesures aussi à plus long terme qui seront proposées par Pékin. Heike Schmidt, est-ce que vous nous entendez toujours?
Qui doivent améliorer la qualité de l'air et être plus efficaces, comme par exemple la circulation alternée. Alors Pékin l'a promis lors de sa signature de l'accord climat à Paris. D'ici 2030, la part des énergies vertes doit passer des 12% aujourd'hui à 20%. D'ailleurs, la Chine est déjà le champion mondial des énergies propres. Le pays assure plus qu'un tiers de la croissance mondiale dans l'énergie éolienne. L'année dernière, presque une éolienne sur deux dans le monde a été installée ici. Pareil pour le solaire d'ailleurs, aucun autre pays ne produit aujourd'hui autant d'énergie solaire. Alors tout ne tourne pas encore rond dans ce nouveau secteur, mais cette lente révolution est sans doute déjà en marche. Autre mesure dont on a pris connaissance hier, à partir de 2018, Pékin veut taxer les industries polluantes. Plus une usine pollue, alors plus elle devra s'acquitter de cette taxe. Problème, selon certains experts, payer cette taxe sera encore moins cher que de s'équiper de technologies modernes pour réduire les émissions nocives.
Et puis aussi, ces mesures qui concernent chaque citoyen, j'en cite juste quelques-unes, des primes à la casse pour les vieilles voitures polluantes, ou encore une loterie pour obtenir le droit d'immatriculer une nouvelle voiture, comme à Shanghai. Merci beaucoup Heike Schmidt. Vous étiez en direct avec nous de Pékin pour répondre aux questions de Jocelyn, notre auditeur de Canton. Autre auditeur, autre question, tout autre sujet, c'est avec Camara Alpha qui nous appelle de Conakry en Guinée. Bonjour Camara Alpha.
Oui, bonjour.
Alors vous vous intéressez à un scandale minier dans votre pays, en Guinée-Conakry?
Oui, tout à fait. La semaine dernière, j'avais appris l'arrestation de M. Venis Kermet pour son présumé implication dans le fait de corruption dans les mines guinéennes. À ce propos, voilà, mes questions sont les suivantes. Quelles sont concrètement, quoi reproche-t-on à Monsieur Denis? Quelles sont les preuves qu'on a contre lui? Quelles sont, où on en est avec la procédure que l'État guinéen a engagée contre lui? Qu'est-ce risque-t-il?
Alors, Benny Steinmetz, vous en parliez, Camara Alpha, c'est un homme d'affaires franco-israélien que l'on surnomme le roi du diamant. C'est la 15e fortune d'Israël et on en parle tout de suite avec Guilhem Deltay, notre correspondant à Jérusalem. Bonjour Guilhem.
Bonjour Marie, bonjour Camara Alpha.
Alors, Camara Alpha, qui s'intéresse d'abord à la procédure de l'État guinéen engagée contre le franco-israélien et puis les preuves qu'on a contre cette personnalité, cet homme d'affaires.
Alors, d'un mot d'abord, Marie, peut-être revenons sur les soupçons qui pèsent sur Benny Steinmetz. En fait, ces soupçons datent des conditions dans lesquelles il est arrivé en Guinée en 2008, où il a commencé à exploiter l'un des gisements de minerai de fer de Simandou. Il a pris des parts, en fait, sur ce gisement pour la somme de 160 millions de dollars à l'époque. Sauf que 18 mois plus tard, il a revendu 51% de ses parts, donc un petit peu plus de la moitié, pour la somme alors de 2 milliards et demi de dollars. Donc forcément, il y a des doutes, des interrogations. Comment explique-t-on cette différence? Il a revendu 30 fois plus cher ses parts en 18 mois plus tard. A-t-il donc bénéficié d'un tarif avantageux au moment où lui est arrivé donc sur le gisement de Simandou? Et ces questions, elles ont été soulevées par le président Alpha Condé lors de son arrivée au pouvoir en 2010, qui a décidé de réviser tous les contrats miniers. Une enquête a notamment été ouverte sur les conditions d'attribution donc de deux blocs au groupe de Benny Steinmetz, le groupe BSGR, et sur des soupçons donc de versement de pots de vin de responsables guinéens. Alors, où en est l'enquête aujourd'hui? Quelles sont les preuves dont disposent les enquêteurs contre Benny Steinmetz? Je sais que l'enquête est internationale. Elle a été commencée en Guinée. Elle a été menée ensuite, elle s'est poursuivie ensuite notamment aux États-Unis, en Suisse, au Royaume-Uni aussi, où se trouve le siège de l'entreprise du groupe BSGR, la Suisse, où Benny Steinmetz avait une résidence. Quant aux États-Unis, eh bien en fait, là-bas, les enquêteurs du FBI ont entendu Mamadi Touré, la quatrième épouse de l'ancien président Lansana Conté. Elle est aujourd'hui installée aux États-Unis. Aux yeux de la police fédérale américaine, eh bien, elle aurait servi d'intermédiaire pour les pots de vin versés à son mari. Tout ce dossier a finalement été transmis à la justice israélienne, qui a donc décidé d'arrêter lundi dernier Benny Steinmetz. Il a été entendu pendant plusieurs heures. Il est aujourd'hui placé en résidence surveillée chez lui.
Et alors Camara Alpha se demande maintenant que risque Benny Steinmetz, hein, qui a quitté la Suisse lorsqu'il y a eu des révélations dans la presse pour rejoindre Israël, se croyant peut-être à l'abri. Que risque-t-il maintenant, Guilhem?
Alors, Benny Steinmetz a été arrêté en Israël, c'était lundi dernier. Il est aujourd'hui assigné à résidence jusqu'à la semaine prochaine au moins. Une autre décision judiciaire devra être prise d'ici là. Mais il n'est pour l'instant pas formellement inculpé de quoi que ce soit ici en Israël. Pas de charge retenue contre lui par les juges à l'issue de son audition de la semaine dernière. On ne peut donc pas prédire pour l'instant d'une éventuelle peine, si jamais peine il y a. Ce qui est certain en tout cas, c'est que si procès il y a au bout du compte, eh bien, il ne sera pas jugé en Guinée, Benny Steinmetz. Israël n'extrade pas ses ressortissants. Il serait donc, encore une fois, au conditionnel, alors jugé en Israël.
Et puis, je précise aussi que dans cette affaire, l'ex-ministre des Mines, Mahmoud Thiam, a été arrêté aussi le 13 décembre aux États-Unis. Merci beaucoup, Guilhem Deltaï, d'avoir apporté toutes ces précisions à notre auditeur de Conakry, Camara Alpha. Il est 9h21 à Paris, la suite de cette première partie d'appel sur l'actualité avec vos questions. Et maintenant, les questions d'Al Mokhtar qui nous appelle de Bandiagara au Mali. Bonjour Al Mokhtar.
Bonjour Marie, bonjour les auditeurs.
Alors Al Mokhtar, la ligne n'est pas très bonne avec Bandiagara. J'espère qu'on va entendre vos questions. Des questions sur la CMA, la coordination des mouvements de la Zawad. Alors, malheureusement, Al-Mokhtar, la ligne est très mauvaise, mais j'ai vos questions sous les yeux. Vous précisez que la CMA a suspendu sa participation au processus de paix au Mali la semaine dernière. Vous intéressez aux raisons qui ont poussé la CMA à prendre cette décision, à l'impact que cette suspension pourrait avoir sur le processus de paix, et vous interrogez aussi sur la mise en place des autorités intérimaires. Où en est-elle dans le nord du pays? C'est Serge Daniel, notre correspondant à Bamako, qui va vous répondre. Bonjour Serge.
Bonjour.
Alors, il faut peut-être préciser que la CMA a suspendu sa participation aux instances de suivi du processus de paix au Mali, c'est bien ça?
Oui, tout à fait. En réalité, 18 mois après la signature de l'accord de paix et de réconciliation d'Alger, la machine enregistre plusieurs ratés. Alors, chaque partie se rejette la responsabilité sur l'autre. Et le 19 décembre dernier, la coordination des mouvements de la Zawad, la CMA, c'est la Next Rebellion, a dans un communiqué annoncé que jusqu'à nouvel ordre, elle ne participait plus au processus de paix. Alors pourquoi? Selon elle, à cause de la hausse de la violence sur le terrain, l'absence de progrès en matière de réforme de la part du gouvernement malien, à cause des violences répétées du cessez-le-feu, avant d'appeler, la CMA a appelé ensuite la médiation internationale à organiser une réunion de haut niveau pour faire redémarrer le processus. Alors, d'après nos informations, cette réunion aura lieu le 12 janvier prochain. Mais côté gouvernement, on rejette catégoriquement ces accusations. On cite que Bamako a pris des mesures législatives pour faire avancer le processus, débousser de l'argent. Donc, chacun, si vous voulez, se jette la responsabilité, mais quand on voit très bien, c'est que chacun, en fait, dans ce processus, a son agenda. Chacun veut gagner du temps, et on se dit que le temps joue pour chacun. Alors, mais tout n'est pas si bloqué quand on réfléchit bien, parce qu'il y a aujourd'hui un embryon, et ça c'est très important, un embryon de patrouille mixte sur le terrain, même si l'opération n'est pas généralisée dans tout le nord du Mali. À des endroits, à Gao par exemple, on voit des ex-rebelles et des forces armées maliennes qui sont à des endroits sur le terrain. Et puis des combattants sont prêts à désarmer parce que, on le sait, il y a un président de l'opération mobilisation des armements et réinsertion qui a été nommé l'ancien ministre Zahabi Sidi Ould Mohamed.
Alors vous parlez de ces patrouilles mixtes, Serge Daniel, on en vient à la deuxième question de notre auditeur Al Mokhtar sur la mise en place des autorités intérimaires dans le Nord. Où en est-elle?
C'est très important, c'est-à-dire que dans plusieurs localités du Nord, pendant longtemps, à cause de la crise, des élections n'ont pas pu se tenir. Alors l'idée est d'installer des autorités intérimaires pour soit combler un vide pour un moment, ou soit pour faire participer d'ex et non ex-rebelles à la gestion des affaires locales. Alors, les autorités intérimaires ont été quasiment tous désignées, c'est-à-dire que les listes ont été validées par le gouvernement. On attend par exemple les listes des groupes armés pro au gouvernement malien, mais il y a eu un problème, c'est que les ex-rebelles ont dit, avant d'organiser les dernières élections communales, il fallait installer les autorités intérimaires qui seraient chargées de faire revenir les réfugiés, de faire participer le vote à tout le monde. Ça ne s'est pas fait malheureusement. Et aujourd'hui, dans plusieurs localités, les autorités intérimaires ne sont pas installées, disons les choses clairement. Et du coup, ça bloque quand même le processus, c'est-à-dire que le processus tangue. Alors côté gouvernement, on nous dit non, il y a eu des problèmes de logistique, il y a eu des problèmes sur le terrain, et que très rapidement, tout devrait rentrer dans l'ordre, mais pour le moment, disons-le clairement, dans certaines localités, il n'y a pas, dans plusieurs localités, il n'y a pas d'installation d'autorité intérimaire, et c'est une violation de l'accord de d'Alger.
Merci beaucoup Serge Daniel d'avoir répondu aux questions d'Al Mokhtar qui nous appelait de Bandiagara. Malheureusement, la ligne n'était pas très bonne avec le centre du Mali. Dernière question, dernier auditeur, c'est Pape Djiba qui nous appelle de Dakar au Sénégal. Bonjour Pape.
Bonjour Marie.
Alors vous avez une question sur une décision du président français en faveur des tirailleurs sénégalais. On vous écoute.
Voilà. Après la visite du président sénégalais Macky Sall en France, le président français François Hollande a promis de donner la nationalité sénégalaise, la nationalité française aux tirailleurs sénégalais. Aujourd'hui, ma question, c'est pourquoi la France a attendu si longtemps pour primer, pour donner la nationalité française aux braves gens qui ont lutté pour la France? Et ma deuxième question, c'est quels sont les bénéficiaires?
Alors, c'est Sylvie Coffi qui va vous répondre. Elle nous a rejoint en studio. Bonjour Sylvie.
Bonjour Marie, bonjour Pape.
Avant de répondre aux questions de Pape, en quelques mots, un petit état des lieux. Combien on compte de tirailleurs sénégalais et qui sont vraiment ces personnes concernées par les décisions annoncées par François Hollande la semaine dernière?
Alors, leur nombre, ils sont estimés à moins d'un millier. Ils sont très âgés aujourd'hui, entre 70 voire 85 ans. Ils vivent seuls, surtout dans des foyers, les foyers Adoma en banlieue parisienne. Ils sont souvent malades et en fait ceux qui sont concernés c'est ceux qui résident uniquement en France. Hein. Pas question de naturaliser ceux qui sont rentrés dans leur pays d'origine.
Parce qu'il faut vivre en France, pouvoir être naturalisé français.
Tout à fait. En fait c'est une demande qui doit être faite hein, par la personne qui veut devenir français.
Alors on l'a dit, ces hommes sont très âgés, la suppression de leur régiment remonte aux années 60. Pourquoi avoir attendu aussi longtemps pour faciliter leur naturalisation?
Alors on sait que la question des tirailleurs sénégalais est un sujet très sensible. En 2007, leur pension avait été décristallisée. Nicolas Sarkozy leur avait accordé les mêmes retraites qu'aux anciens combattants. Aujourd'hui, 10 ans plus tard, on peut dire que c'est un pas supplémentaire qui est donc franchi avec cette entrée dans la nationalité française. Cette annonce se fait dans un contexte particulier. Un contexte politique favorable. Il n'y a pas d'enjeu pour François Hollande. Il est en fin de mandat. Il ne se présente pas au présidentiel. Donc, le contexte est tout à fait favorable pour accorder la nationalité à ces anciens tirailleurs sénégalais.
Mais alors, si un président en fin de mandat donc attend cet instant propice pour proposer cette mesure, c'est que la question était sensible.
La question était sensible et il faut faire les choses de manière accélérée parce que la fenêtre de tir est très courte. On va être en campagne présidentielle, donc il faut que ces dossiers soient déjà dans les préfectures. Et le président de la République a dit qu'il va donner des instructions précises aux préfets pour que ces dossiers soient prioritaires.
Alors comment, du coup, vont être facilitées les démarches qui sont très compliquées pour être naturalisées, surtout quand on est né à l'étranger et qu'on a passé une partie de sa vie ailleurs?
Oui, tout à fait, Marie. En fait, on leur demandait des pièces d'état civil impossibles à obtenir, notamment des actes de naissance des parents ou des grands-parents, alors que souvent les registres de naissance n'existaient pas dans les villages. Donc c'est à ce niveau-là qu'il va falloir faciliter les documents à fournir. Les pièces à fournir. Ce qu'il faut aussi, c'est recenser ces tirailleurs parce que on dit qu'ils sont moins d'un millier, mais en fait, il faut que cette annonce, ils soient sensibilisés et qu'ils sachent qu'ils peuvent faire la demande de naturalisation.
Merci beaucoup Sylvie Coffi d'avoir répondu aux questions de Pape Djiba qui nous appelait de Dakar au Sénégal. Toutes les questions de nos auditeurs, les réponses de nos journalistes à retrouver très bientôt sur la page Facebook de l'émission. Dans quelques instants, on fait un point sur l'actualité africaine et puis notre débat juste après sur les négociations politiques en cours en RDC. À tout de suite.
Retrouvez Appel sur l'actualité après le journal avec Orange Money, leader du transfert d'argent.